Imaginez que vous venez de voyager dans le temps, que vous vous retrouvez il y a plus de 3 milliards d'années, non pas sur Terre, mais dans l'espace. De là-haut, vous regardez la Terre. Il y a de l'eau un peu partout à sa surface, mais la planète que vous avez sous les yeux ne ressemble en presque rien à la Terre des cartes d'aujourd'hui. Les continents, par exemple, viennent tout juste de sortir de l'eau. Ils n'ont pas du tout la forme des continents actuels. Vous les observez un instant, mais la Lune qui vient d'apparaître sur votre gauche attire votre regard. Elle est beaucoup plus proche de la Terre que dans votre souvenir. Elle est responsable de marées colossales, bien plus importantes qu'aujourd'hui, changeant en permanence la répartition de l'eau à la surface de la Terre. Vous la regardez tirer les océans vers elle quand soudain, le temps s'accélère. Des centaines, puis des millions d'années s'écoulent chaque seconde. En restant au-dessus de la Terre, en fixant sa surface, vous observez son histoire en accéléré. Les continents, qui semblaient immobiles, se mettent à bouger, à grandir, à se déplacer, créant des chaînes de montagnes lors des collisions et de nouveaux océans lors des séparations. Plusieurs fois, au hasard de leurs mouvements, vous les voyez s'assembler et se briser, pour d'abord ne former plus qu'une seule masse immense, des supercontinents rassemblant toutes les terres émergées, avant de redevenir plusieurs morceaux qui s'éloignent les uns des autres. Près de 3 milliards d'années passent ainsi sous vos yeux. 3 milliards d'années de mouvements permanents, de collisions et de séparations. Au bout d'un moment, les terres qui étaient rocheuses et purement minérales commencent à se couvrir de plantes et de vie. Des forêts apparaissent et poussent et se propagent. Et en un claquement de doigts, vous voyez apparaître les humains, les villes, les champs. Et tout d'un coup, aussi vite qu'il s'était mis à accélérer au départ, le temps reprend sa course habituelle et la Terre semble se figer sous vos yeux dans sa configuration actuelle. Elle ne bouge plus, les continents ne bougent plus, plus rien ne semble bouger. Mais vous savez que ce n'est qu'une illusion, que les changements, à l'échelle de notre monde, se font sur des durées bien plus importantes que celles que nos sens perçoivent. Sauf parfois, lors de tremblements de terre par exemple, ou lorsque de gigantesques mouvements d'eau viennent changer la forme de la croûte terrestre. Et c'est justement pour parler de ces changements, des déformations de notre monde d'aujourd'hui, que j'ai le plaisir d'avoir trois invités à mes côtés.
Bonjour, je suis Alexandre Chubnel, je suis directeur de recherche au CNRS, géophysicien et spécialiste des tremblements de terre. Ça fait 25 ans que je travaille sur ces objets scientifiques fascinants qui sont à l'origine d'à peu près tous les paysages terrestres.
Bonjour, je suis Christelle Chanard, je suis chargée de recherche à l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière, l'IGN, qu'on connaît plutôt pour les cartes, et à l'Institut de Physique du Globe de Paris. Alors moi, je crois que rien ne me prédestinait à devenir chercheuse, mais j'imagine que la combinaison entre une école publique avec des professeurs passionnés, passionnants, et un intérêt, une curiosité pour le monde qui nous entoure, et l'envie probablement de travailler sur des questions qui ont un impact sociétal, m'ont amené à étudier les sciences de la Terre et du climat. Et en particulier, je m'intéresse aux grandes déformations de la Terre, aux déformations liées notamment au cycle de l'eau. Je suis géophysicienne et géodésienne.
Ah, bonjour, je suis Patrick Bouchain. Voilà, donc, étant le plus vieux de l'émission, ça fait donc 60 ans que j'ai décidé de ne pas construire en tant qu'architecte et de ne faire que des bâtiments démontables, transportables, voire pouvant s'envoler, et de travailler principalement sur des cirques et des chapiteaux pour la culture. Et donc, en effet, c'est en prenant cette voie que j'ai compris que cette architecture étant souple, elle était adaptable donc aux déformations, et que donc c'est pour ça que j'ai accepté cette invitation pour vous dire ma passion sur le mouvement de la Terre.
Eh bien, Patrick Bouchain, Christelle Chanard et Alexandre Chubnel, bonjour, merci d'être là. Et bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct avec le public du studio 621 de la Maison de la Radio. Vous écoutez Big Bang et nous allons explorer les déformations de notre monde.
France Inter. Big Bang. Christophe Galfard.
Alors chaque année, on recense sur Terre, j'ai l'impression, environ 100 000 tremblements de terre. 100 000, ça fait à peu près 300 par jour. On s'en rend pas forcément compte, et puis ils ne sont absolument pas tous catastrophiques, mais certains oui. Donc ce serait quand même sympa si on arrivait à les comprendre un peu mieux, ne serait-ce que pour de la prévention, pour de la construction, ou même pour notre propre culture générale. Mais avant de se plonger là-dedans, Alexandre Chubnel, j'avais envie de vous poser une question. Au fond, c'est quoi un tremblement de terre ?
Eh bien, un tremblement de terre, c'est un objet assez fascinant parce que c'est une fracture un peu comme celle qu'on aurait dans un pare-brise. En fait, c'est une fracture qui se propage entre deux compartiments rocheux, deux blocs. Cette fracture, on l'appelle en géologie une faille. Et le long de cette faille, en fait, pendant la propagation du tremblement de terre, deux blocs de roches qui peuvent être gigantesques. Pour les plus grands, on est en train de parler de failles qui sont des milliers de kilomètres, enfin, ou 1000 kilomètres. Et les deux blocs de roches glissent l'un contre l'autre. Et il faut se rendre compte que de la dimension de la chose, puisque un tremblement de terre, c'est une fracture, et c'est une fracture qui se propage à des vitesses qui sont de l'ordre de la vitesse des ondes acoustiques dans le sol, c'est-à-dire de 3 km par seconde, donc 10 000 km heure, à peu près la vitesse d'une fusée. Et donc, tout le long de cette propagation, la fracture va émettre des ondes qui sont ces fameuses ondes sismiques qu'on enregistre en fait partout dans le monde. Et aujourd'hui, tous les tremblements de terre de magnitude supérieure à 4, en gros, sont enregistrés sur l'intégralité de la planète. Et donc, se génèrent des ondes qui traversent la planète et qu'on enregistre un peu partout. Et donc, chaque année, on a un tremblement de terre de magnitude 8 environ et 10 tremblements de terre de magnitude 7. 100 tremblements de terre de magnitude 6, 1000 tremblements de terre de magnitude 5, etc., etc. Et il n'y a pas de limite inférieure à l'échelle des magnitudes, ce qui fait qu'en fait, le nombre de tremblements de terre qu'on détecte n'est lié qu'à notre capacité de détection.
Ces chiffres que vous nous avez donnés de magnitude, c'est ce qu'on appelle l'échelle de Richter, c'est ça ?
C'est ce qu'on appelle l'échelle de Richter.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est l'échelle de Richter ?
Alors, l'échelle de Richter, donc, elle a été définie par Charles Richter dans les années 40-50. En fait, c'est une échelle qui mesure l'énergie libérée par un séisme. Alors, à l'origine, cette échelle, elle mesurait l'amplitude des ondes sismiques à 100 km de la source. Et donc, pour un séisme de magnitude 7, par exemple, on mesurait une déformation, une amplitude du mouvement du sol de l'ordre de 1 mm à 100 km, ou peut-être même 1 cm, je ne pourrais pas donner la valeur réelle, à 100 km de la source. Et un tremblement de terre d'un point de magnitude supérieure, c'était 10 fois plus d'amplitude, etc.
Quand vous parlez d'amplitude, là, on parle du haut vers le bas ou de gauche à droite ?
Alors, les deux. OK. Les deux. Donc c'était en fait une amplitude moyenne, on va dire, puisqu'on regardait à la fois les mouvements verticaux et les mouvements horizontaux. Et puis dans les années 60-70, on s'est vraiment raccroché à quelque chose d'énergétique. Donc c'est un chercheur américain qui s'appelle Hiro Kanamori qui a raccroché l'échelle de Richter à un concept énergétique. Et donc en fait, on a été obligé de tordre un peu l'échelle de Richter sans vraiment la tordre, ce qui fait qu'aujourd'hui, entre deux points de magnitude, l'énergie dissipée, c'est pas 10, mais c'est 30 fois.
Histoire de simplifier ça.
Histoire de simplifier. Ce qui fait que, et à vrai dire, c'est même difficile pour nos étudiants de comprendre que, en fait, entre un magnitude 7 et un magnitude 8, c'est pas 10 fois plus gros, c'est 30 fois plus gros. Et donc, entre un magnitude 7 et un magnitude 9, c'est 900. Pas... Ouais, ou 1000, en fait.
1000,
exactement,
disons.
Exactement. Donc,
et donc on en géologie, en 30 fois 30, ça fait 1000.
Non. Alors, en fait, c'est parce que c'est 10 puissance 1,5. Et que 10 puissance 1,5, ça fait 31, je sais pas. Et donc, en fait, et il faut se rendre compte de l'énergie. Du coup, on a pu se raccrocher à une échelle énergétique. Et un magnitude du 9, c'est des millions de fois plus gros que la bombe d'Hiroshima. L'énergie dissipée que la Terre dissipe pendant un magnitude 9, c'est plusieurs millions de fois plus gros que la bombe d'Hiroshima. Et la plus grande bombe qu'on ait jamais fait déclencher sur Terre, la Tsar Bomba, a dissipé à peu près l'énergie d'un magnitude 8. Donc 30 fois moins que les plus gros tremblements de terre qu'on ait jamais enregistrés. Et ça, je pense que c'est fondamental de se rendre compte que, et c'est une des beautés de la géophysique et de la géologie d'une manière générale, c'est de rendre compte de la puissance et de l'énergie à laquelle on a affaire, en fait, et qui est complètement surhumaine, en fait. Et à vrai dire, difficile de même se représenter, puisque, de nouveau, un tremblement de terre de magnitude 9, c'est 30 fois plus gros que la plus grosse
bombe jamais utilisée sur Terre. Christelle Chanard, les tremblements de terre, certes, transforment la forme de notre planète, mais il n'y a pas que... J'ai l'impression que dans votre travail, vous étudiez une autre forme de changement qui est liée, par exemple, au poids de l'eau.
Alors oui, donc moi je suis spécialiste de géodésie et en plus de géodésie spatiale plutôt, donc je vais observer la forme de la Terre et ses variations dans le temps et dans l'espace.
Géodésie, c'est les lignes droites en gros qu'on peut mettre, ou les courbes qu'on peut mettre à la surface de la Terre?
Alors la géodésie, c'est vraiment l'étude, la science qui s'occupe de mesurer précisément et d'essayer de comprendre la forme de la Terre, donc ça veut dire sa forme géométrique, son champ de gravité et sa rotation. Et en fait, c'est pas une science nouvelle du tout, puisque déjà les philosophes grecs, Platon, Aristote, se posaient la question de la forme de la Terre, du monde qui les entourait et de sa place dans l'univers, et cherchaient un moyen de mesurer cette forme de la Terre, donc par exemple avec des données astronomiques. Et puis, finalement, qu'est-ce qu'on sait de la forme de la Terre aujourd'hui ? On sait que en gros, elle est ronde, mais elle est quand même un peu aplatie au pôle. Ça veut dire que le rayon de la Terre, au pôle, il est à peu près 20 km, il fait 20 km de moins que le rayon à l'équateur. Et on sait aussi que tous les phénomènes géophysiques, que ce soit les tremblements de terre, mais aussi les redistributions de masse qui sont liées au cycle de l'eau, par exemple, ou bien les volcans, ils vont avoir un impact sur les déformations de la Terre. Et ça, c'est plutôt des choses qui se trouvent entre le millimètre et je dirais la centaine de mètres. Si j'essaye de ramener ça à quelque chose qu'on peut peut-être mieux se représenter, si je ramène la Terre à la taille d'une orange, l'aplatissement des pôles, c'est une déformation de l'ordre de la fraction de millimètre, et les phénomènes géophysiques qu'on cherche nous à mesurer, c'est de l'ordre plutôt du micromètre. Donc on est en train de chercher à mesurer des choses extrêmement précises qui font à la taille de l'orange, la taille d'une bactérie en fait. Et du coup, on voit qu'il faut à la fois avancer la métrologie, la mesure des déformations de la Terre et la compréhension des processus physiques associés. Et moi, effectivement, je m'intéresse plutôt qu'aux tremblements de Terre qui font des grandes déformations, je m'intéresse à des petites déformations qui sont liées aux redistributions des masses d'eau sur Terre. Et donc ça veut dire les lacs, les rivières, les glaciers, l'océan, l'eau souterraine aussi. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de comprendre, en fait, comment, quand une masse d'eau va se déplacer, elle va déformer la Terre solide. Ça a un intérêt multiple, parce qu'on peut, déjà, dans un premier temps, essayer de développer une science qui est à la croisée de plein d'autres sciences, qui s'appelle l'hydrogéodésie. Donc, on va pouvoir, à partir des mesures de la forme de la Terre et de leur variation dans le temps, dire des choses sur l'évolution du cycle de l'eau lui-même. Et ça, c'est dans un contexte de changement climatique, une information clé à avoir parce qu'elle est globale. Le deuxième point intéressant de ce travail, c'est d'essayer de comprendre comment les matériaux de la Terre solide eux-mêmes vont se déformer. Est-ce que ça va être des déformations instantanées ? Est-ce qu'elles vont durer dans le temps ou pas ? Et puis le troisième, c'est quand même, je reviens au tremblement de terre, le lien avec les tremblements de terre, puisque ces déformations de la Terre qui sont causées par les variations des charges climatiques, elles vont pouvoir aller embêter un petit peu les failles qui sont elles mises sous tension par la tectonique des plaques, comme Alexandre vient de nous l'expliquer. Mais on peut les rapprocher ou les éloigner de leur seuil de rupture avec des charges climatiques.
Alors, une charge climatique, est-ce que, par exemple, concrètement, est-ce que la disparition d'un glacier, ça fait partie de ce qu'on appelle une charge climatique ?
Eh bien oui, parce que en fait, si on a une faille qui est, par exemple, sous un glacier ou au bord d'un glacier, souvent, c'est des failles qu'on considère un petit peu dormantes. Elles n'ont pas un fort risque sismique. Mais quand on va faire fondre avec le changement climatique le glacier, on va changer les contraintes appliquées sur cette faille. Et donc, on va enlever du poids au-dessus de la faille et on va avoir tendance à la déstabiliser. Donc, en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a bien des endroits où on a des tremblements de terre auxquels on s'attendait peut-être pas, ou en tout cas pas tout de suite, parce que on fait bouger le climat assez vite. Donc ça compte les glaciers, mais par exemple on peut aussi avoir des effets dans les zones où on pompe de l'eau dans les aquifères pour l'agriculture. On va venir déstabiliser des failles qui sont en bordure de ces aquifères.
Ça voudrait dire que, par exemple, avec la météo même, par exemple la mousson, lorsqu'il y a beaucoup d'eau qui va tomber quelque part, chaque année, on pourrait avoir des cycles dans les tremblements de terre ?
Alors ça, c'est des études, il y a pas mal d'études qui cherchent effectivement à regarder si on voit des saisons de tremblements de terre. Ça veut dire que quand on a par exemple énormément de pluie liée à la mousson en Asie du Sud-Est par exemple, on va regarder si on a plus ou moins de tremblements de terre dans l'année. Et ce qu'on voit par exemple au Népal ou en Himalaya, c'est que on a tendance à avoir plus de tremblements de terre en hiver qu'en été, notamment de petits tremblements de terre, donc c'est de la micro-sismicité, parce que, en fait, quand on a le poids de l'eau, eh ben, le poids de l'eau va avoir tendance à stabiliser la faille, à ralentir un petit peu la plaque, et donc on va aller légèrement moins vite, il y aura un peu moins de friction, on va créer un petit peu moins de tremblements de terre.
Patrick Bouchain, quand on est architecte, comme vous le disiez tout à l'heure, ça complique les choses, ces mouvements.
Ça les complique pas. Ça rappelle surtout que voilà, tout est fragile. C'est ça. Quand on entend cela, ça veut dire qu'il y a donc tout le temps un tremblement, tout le temps un son émis, tout le temps une variation des masses. Et donc, c'est peut-être pour rappeler en effet qu'on est sur un organisme vivant. Car si on n'avait pas ça, quel carnage l'humanité opérerait, si vous voulez. Donc, c'est presque comme un rappel tout le temps à l'ordre que, attention, voilà, c'est pas si simple que ça. Vous êtes sur un satellite, vous êtes la tête en bas, la tête en haut, il y a le jour et la nuit, et puis il y a la pluie, et puis voilà, puis de temps en temps, il y a un grondement, et puis il y a une éruption. Vous voyez, c'est un peu comme une colère, on pourrait dire. Donc si on se rattache à ce que l'homme fait, en général, c'est parce qu'il a subi quelque chose. Il change parce qu'il a vécu un cas. Voilà. Donc un jour, il a mis la main dans le feu, voilà, il ne met plus la main dans le feu, et peut-être qu'un jour, ayant construit un endroit où il y a ce petit tremblement, sa maison s'est effondrée, et soit il a pu la reconstruire parce qu'elle était un empilement de pierre, soit il ne peut pas la reconstruire parce que c'est un voile en béton. Alors on commence à dire, ah tiens, peut-être qu'on pourrait faire des maisons qui seraient mobiles, ou tout au moins des maisons qui seraient molles, ou des maisons qui seraient souples, vous voyez, ce qui est contradictoire, parce qu'on n'arrête pas de dire... Il faut que ce soit solide et autres. Et c'est pour ça que, moi, très tôt, j'ai commencé à m'intéresser, justement, à ce qui était mobile, à ce qui était éphémère, à ce qui était léger, ce qui consommait le moins, et à ce qui était possible à reconstruire avec ce qui était démoli. Parce que le problème, si vous voulez, c'est que là, aujourd'hui, on construit avec des matériaux qui les puisent, en effet, et qui retirent de la masse à un endroit, le sable, pour faire le béton, pour l'emmener à un autre endroit. Et ce béton, donc, en effet, est indéformable, on va le briser et il sera inutilisable, si vous voulez. Et donc, de dire non, on peut utiliser des matériaux de la terre, parce qu'on ne peut pas faire autrement, et puis peut-être qu'on peut, on les démolit, eh ben on peut les réutiliser, ce qu'on appelle le réemploi, mais on pourrait aussi, s'il y avait un cataclysme, immédiatement reconstruire. Oui. Moi, je me suis occupé de zones où il y a eu un cyclone, eh ben, en effet, tous les petits logements qui étaient, on pourrait dire, des logements informels, ce qu'on appellerait des bidonvilles, peut-être, sont remontables. On l'a vu donc, récemment dans une île qui est un département français. Les gens, en 8 jours, ont pu remonter le peu de matériaux qu'ils avaient. Et le premier ministre de l'époque, qui s'appelait Bayrou, est descendu pour dire « Nous reconstruirons aussi vite que Notre-Dame tout ce qui a été démoli, et rien n'a été commencé. » Et rien n'est fait. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire que, voilà, on n'est pas sur la bonne voie. Mais quand je vous entends, comme moi j'ai fait beaucoup de salles de musique, et que la musique, voilà, c'est une onde, et que donc l'acoustique c'est une onde, et comment elle se transporte, voilà, comment cette onde se transporte. Alors elle est infime peut-être, mais elle se transporte. Elle rencontre une paroi, elle réfléchit, et ainsi de suite. Et comme j'ai travaillé avec beaucoup de musiciens et des luthiers, et par rapport à l'histoire de la Lune, vous vous rendez compte que quand même, un luthier vous raconte que abattre un érable pour faire un do de violon, il faut connaître l'intensité de la lune. C'est-à-dire que on peut pas abattre un érable tout le temps. Il faut l'abattre la nuit, il faut l'abattre plutôt donc en lune descendante et non pas en lune montante. Et l'abattant, on sait qu'on a un bon arbre, un bon érable, mais c'est pas pour autant qu'on fait un bon violon. Vous voyez, après, il y a la main de l'homme. Mais si on a un mauvais érable, une bonne main de l'homme ne fera pas un bon violon. Et moi, ce qui m'intéresse, vous voyez, c'est de savoir et en même temps de ne pas tout savoir. Il y a un mystère. Et heureusement qu'il y a ce mystère.
Absolument,
mais sinon, s'il n'y avait pas cette ignorance.
Mais c'est le mystère qui permet aussi aux scientifiques d'aller découvrir des nouvelles lois dans la nature et d'ouvrir des nouvelles portes. Cette partie acoustique, Alexandre Choubnel, est-ce qu'elle nous renseigne par exemple sur la profondeur des tremblements de terre, et est-ce que les tremblements de terre peuvent avoir lieu à n'importe quelle profondeur sur Terre ?
Alors avant de vous répondre tout de suite, je voudrais rebondir un peu, parce qu'en fait, il y a une analogie assez parfaite entre un instrument de musique et la Terre. Et notamment les tremblements de terre. En fait, les tremblements de terre, on peut considérer que c'est comme une corde de violon, et en fait, la fréquence à laquelle ils vibrent dépend de la taille de cette corde. Et donc, plus les tremblements de terre vont être grands, plus ils vont être basse fréquence, et donc ils vont faire vibrer la Terre et l'intégralité de la planète, en fait, à basse fréquence. Et il y a même une analogie encore plus profonde qui est celle de, du colophane, puisque dans l'archet du violon, c'est le colophane qui tient la corne, et le colophane, en fait, au bout d'un moment, on arrive à sa résistance frictionnelle, donc il tire la corne, et le colophane lâche la corde se met à vibrer, et le colophane fond, et en fait, au bout d'un moment, le colophane redurcit et rattrape la corne, et la corde s'arrête de vibrer.
Vous pouvez repréciser ce qu'est le colophane ?
Le colophane, c'est la cire qu'on met sur les violons, et c'est pour ça qu'en fait on peut pas jouer du violon à n'importe quelle température, etc., etc. Et en fait, pendant un tremblement de terre, les roches fondent littéralement le long de la fracture, les roches fondent, et donc la terre se met à vibrer, et quand les roches se mettent à glisser un peu moins vite, ces roches se redurcissent de manière instantanée et rattrapent la corde, et la corde, et la corde s'arrête de vibrer, le tremblement de terre s'arrête de vibrer. Et donc on a en fait des modes de tremblement de terre, et c'est que d'ailleurs comme ça aujourd'hui qu'on mesure leur magnitude, on mesure la magnitude d'un tremblement de terre en regardant son pitch en fait d'une certaine manière, en regardant sa fréquence caractéristique qui nous donne l'idée, qui nous donne une information directe sur la taille du tremblement de terre.
Et il n'y aurait pas là un lien avec...
Les deux matériaux, pardon de couper là, les deux matériaux dont on parle, la corde et l'archer, donc on pourrait dire, l'un c'est un boyau d'animal et l'autre c'est un crâne de cheval. Donc c'est assez étonnant, vous voyez, on a deux choses que l'on frotte qui vont créer une vibration, on est obligé de les protégé. D'ailleurs, certains disent que le colophane, comme il s'évapore, pourrait être cancérigène. Donc, on a même envisagé de ne plus en mettre et préférer moins bien jouer pour, au risque de ne pas attraper un cancer, mais quand même de fumer dans sa loge, par exemple. Voilà. vous voyez, c'est un peu contre ça. C'est, vous voyez, que c'est pas que je m'insurge, mais de ramener un peu plus de modestie, de compréhension et de dire tout se tient. Et donc, soyons curieux que tout se tient et respectons le tout et tout. Mais tout se tient.
Pour rebondir juste sur, par rapport à cette friction et ces matériaux qui fondent, est-ce que ça ne ferait pas un lien avec la question que je vous posais tout à l'heure, à savoir, on peut grâce à ça déterminer jusqu'à quelle profondeur les tremblements de terre peuvent avoir lieu ?
Alors, donc, les tremblements de terre sur Terre, donc la Terre, c'est donc, comme le rappelait Christelle, c'est un objet qui fait 6300 km de diamètre. Et sur Terre, les tremblements de terre les plus profonds qu'on ait jamais enregistrés ont eu lieu à 700 km de profondeur. Donc en fait, en dessous de 700 km, on n'enregistre aucun tremblement de terre. Mais néanmoins, ces tremblements de terre qui ont lieu à 700 km de la surface sont des objets, alors véritablement pour le coup, particulièrement mystérieux et pour lesquels on a évidemment un certain nombre d'hypothèses. Il faut se rendre compte que les forages les plus profonds réalisés sur Terre sont de l'ordre de 10 km. Donc on a assez peu d'idées enfin, on a des idées, mais on n'a pas d'objets directs qui nous disent comment sont les roches à 700 km de profondeur. Donc on émet des hypothèses et des modèles. Et donc aujourd'hui, on pense que ces tremblements de terre qui ont lieu à 700 km de profondeur sont reliés à des processus frictionnels qui font intervenir les minéraux et leur changement de phase. En fait, c'est des minéraux, un minéral, l'olivine, en fait, qui change de phase.
Ça veut dire quoi, changer de phase, qui passe de...
Comme le carbone qui transforme de graphite en diamant. Et donc, l'olivine se transforme dans sa phase de haute pression, qui serait donc la ringwoodite ou le spinel. Et alors là, il y a quelque chose d'assez beau, parce que l'olivine, c'est un minéral vert, et la ringwoodite, c'est un minéral bleu, et on se dit donc que ces tremblements de terre profonds, c'est la matière qui change de couleur, d'une certaine manière.
C'est assez joli.
Et oui, la sismologie est très poétique.
comme entre deux tremblements de terre, on passe du bruit au silence, nous allons écouter le bruit et le silence de Ness.
Si je viens, c'est que je me donne sur le track. C'est pas pour rien si à mon place sur le tract. Regarde-moi bien, je n'ai jamais signé le pacte. Je n'ai fait que viser le top. Je n'ai fait qu'assumer mes failles. Regarde-nous bien, on n'a jamais signé le pacte. Faut mettre bien sa famille, ses amis, les amis de la famille, des amis et j'en passe. Les gens viennent, les gens partent, des boulevards, des impasses. Des civils, des gendarmes, des refrains, des gens lâches. Des refrains, des couplets, des tout larges, des tout maigres. Je voulais un crew, une équipe. Je voulais palper du liquide. J'étais frêle et intuitif. Quand je pense à la grandeur du risque,
Quand je pense à la pression du disque, plus que dans les veines, je n'ai pas de collal. Si tu n'es pas pour de vrai, je ne fais pas de collab. Et y'a 2-3 rappeurs qu'il faudrait call out. Je vous baise, big up, shout out. Je suis dans le métro, des flashs dans le rétro. Devant j'ai le succès ou les ulcères. Soit je me bouge, soit je moisis. C'est moi qui choisis.
C'est moi.
Je confonds le mercredi et le dimanche, le bruit et le silence, le lit et le divan. Tu m'achèteras pas avec tes pièces, des billets. Ta morale s'étend à du vide, des miettes. C'est la mienne, douce comme le miel. J'ai rempli, fait grossir l'assiette. Un peu de fame, ils veulent draguer des fillettes. Ils sont sur une ficelle. Ils méritent la civière, la gilette. Normal, je la rafale comme Clint Eastwood. C'est pour ça qu'il y a la tête de Chick qui bouge. Nous, on t'aime pas trop comme un vil si louche. Nous, on fonce dans le tas comme un missile douce. Il a voulu tirer cet imbécile tous. Dommage, il a trahi, on l'appréciait tous. La guerre quête de loin quand la paix s'étouffe. Si tu kiffes pas, t'écoutes pas et puis c'est tout.
Les non-dits ont tué nos familles. Les hauts placés ont bafoué nos valeurs. Les frères ont boosté nos batteries. Nos mères ont étanché nos malheurs.
9-4 comme le 113.
9-4 comme le 113, 113 comme le BPM. Invisible sur la map, je suis une sorte de VPN. Je calcule pas trop les stats, rien à foutre du CTR. Ma voix sur la terre, donc remballe ta CTR.
Je mets de l'argent dans le physique, comme si je veux un BBM.
Si tu me croises dans la rue,
je suis toujours avec les mêmes.
Elle est poilue comme une beuge,
verte comme CTM.
Man, that shit smell good as hell.
Merci, la musique m'a donné un sens. Je rappe comme si je fredonnais un sample. J'ai toujours marché avec le même instinct. Je traîne avec des geeks ou avec des lascars. Je pose assis et icy comme l'Alaska. Souvent près de l'objectif comme un ASCAP. J'envoie de la rime de bâtard, c'est pas du bas de gamme, c'est un motif de bagarre.
Vous écoutez Big Bang, nous sommes en direct avec le public de la Maison de la Radio et nous parlons déformation du monde avec le sismologue Alexandre Chouvenel, la géophysicienne Christelle Chanard et l'architecte Patrick Bouchain.
France Inter, Big Bang, Christophe Galfard.
Le 11 mars 2011, à 14h46 et 24 secondes, un tremblement de terre de magnitude supérieure à 9 a eu lieu dans l'océan Pacifique, à 32 km de profondeur, à 72 km à l'est des côtes de Tohoku, au Japon. C'est le tremblement de terre le plus puissant ayant jamais frappé cette île et le quatrième le plus puissant jamais enregistré sur Terre. Le séisme lui-même et le tsunami qui a suivi ont fait près de 20 000 morts, et plus de 2 500 disparus. Mais l'étude de ce tremblement de terre nous a permis de comprendre pas mal de choses. Et ce que je trouve assez fou dans cette étude-là, c'est qu'elle n'a pas eu lieu que depuis la surface de la Terre, Christelle Chanard.
Alors effectivement, donc déjà, paradoxalement, comme vous le mentionniez, c'est un séisme qui est une vraie catastrophe pour le Japon, mais qui nous a amené énormément de données qui nous ont permis de mieux comprendre les tremblements de terre, la mécanique des tremblements de terre, et donc qui nous font avancer aussi dans l'anticipation de la réponse en tremblement de terre ou de la préparation au tremblement de terre. Et à l'occasion de ce séisme, on a eu plein de données au sol. Les sismomètres nous informent bien sûr sur le séisme, mais aussi depuis l'espace. Et ça, c'est beaucoup dans le registre de la géodésie spatiale, qui est donc mon domaine. Et on a par exemple eu des choses assez rigolote. Donc, on le savait déjà, mais quand on a un déplacement du sol qui est lié au tremblement de terre, donc on peut, pour Tohoku, je crois que les déplacements verticaux du sol ont atteint plusieurs mètres proches de l'épicentre et à bien des endroits étaient de l'ordre d'un mètre. Et puis, il y a eu des déplacements horizontaux aussi, avec proche de l'épicentre, il me semble, une vingtaine de mètres de déplacement du sol. Et bien, ces déplacements du sol, ils vont interagir avec l'atmosphère aussi et ils vont déplacer, pousser les masses d'air qui vont donc générer des ondes dans l'atmosphère. Et bien pour la première fois, pour Tohoku, on a pu imager vraiment ces ondes et qui nous ont informés sur le tremblement de terre lui-même. Donc comment ça marche? Et bien on a un déplacement du sol qui va pousser l'air et l'air va monter, on va faire monter une onde dans l'atmosphère. Et cette onde, la clé, c'est qu'elle va être amplifiée. Donc même si on avait des déplacements tout petits au sol, elle va s'amplifier avec l'altitude parce que En fait, la clé, c'est que l'air, quand on monte en altitude, devient de moins en moins dense. Et ça va aider à amplifier cette onde. Pourquoi ? Si on fait une analogie avec, par exemple, une foule quand on est à un concert ou à une manifestation pour défendre l'université et la recherche, par exemple, eh bien,
avec des millions et des millions de personnes.
Exactement. Si on est beaucoup, transmettre une onde, ça va nous demander très peu d'énergie, puisqu'on va pouvoir pousser un petit peu son voisin, qui va pousser son voisin, etc. Par contre, si on n'est pas beaucoup, si l'air est vraiment peu dense, eh bien, il va falloir faire des grands mouvements. Et donc ça fait qu'une petite onde à la surface de la Terre solide, eh bien, elle va se transformer en des centaines de mètres d'amplitude à 300 km d'altitude. Et à ce moment-là, elle va aussi rencontrer ce qu'on appelle la ionosphère, la partie ionisée de l'atmosphère. Et donc, elle va faire changer cette onde, le contenu, la quantité d'électrons dans l'atmosphère. Et ça, en fait, on peut le mesurer avec nos données de GPS, donc de positionnement précis, parce que les GPS, c'est des satellites qui sont à 20 000 km d'altitude, qui envoient des ondes vers le sol, vers des récepteurs qu'on a. Et quand ils traversent cette partie ionisée de l'atmosphère, en fait, leur onde va ralentir, elle va se modifier, on va pouvoir remonter comme ça à partir des variations de cette onde, du temps de trajet de cette onde, on va pouvoir remonter au contenu en électrons et donc à l'onde du tremblement de terre. Et ça, c'est super parce que du coup, depuis l'espace, depuis la ionosphère, on peut imager un tremblement de terre. Alors pourquoi c'est super ? C'est pas aussi précis que des sismomètres au sol, qu'un réseau dense de sismomètres, mais comme on a aussi des propagations de cette onde horizontalement, on peut le détecter de très loin. Et donc ça nous a appris quand même pas mal de choses sur les tremblements de terre et la détection possible depuis l'espace.
C'est marrant parce que en me disant que j'allais faire une émission sur les tremblements de terre à un moment ou à un autre, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a dans la culture populaire par rapport aux tremblements de terre dont on pourrait parler deux secondes. Et je m'étais interrogé sur cette idée qu'on voit parfois dans des romans ou dans des films ou ailleurs, que certains animaux arrivent à prédire les tremblements de terre et du coup s'en vont avant qu'ils soient là et pourraient donner un indice aux humains de s'en aller. Alors, en épluchant un petit peu, je vais vous demander confirmation ou non dans quelques instants, mais en épluchant un petit peu la littérature pour vérifier la littérature scientifique, il n'y a absolument rien qui nous dit que ça pourrait être le cas. Mais il n'est pas exclu que lors de petits tremblements ou des petits mouvements d'air ou d'autres signaux, peut-être olfactifs, je ne sais pas, des animaux qui seraient plus sensibles que nous, des petites secousses soient senties. Après, il me semble qu'il est impossible de prédire à partir d'une petite secousse s'il va y en avoir des grosses derrière ou non, mais si ça va changer quelque chose. Et peut-être que, notamment avec ce tremblement de terre de Tohoku dont on parle à l'instant, des mécanismes ont été peut-être identifié. Alexandre Choubnel, est-ce que vous pourriez nous décrire ce qui s'est passé à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'il a eu de si extraordinaire qu'est-ce qui s'est passé à Tohoku ?
Donc à Tohoku, c'est la zone nord-est du Japon. À cet endroit, la plaque Pacifique, donc l'océan, les roches de l'océan Pacifique s'enfoncent sous le Japon à une vitesse de l'ordre de 6 à 10 cm par an. Donc ça peut paraître pas énorme, mais c'est quand même, en fait, en 1000 ans, on est en train de parler de plusieurs dizaines de mètres. À un endroit, donc comme vous le disiez, à 70 km de la côte, tout d'un coup, le Japon, qui était arrimé à la plaque Pacifique, s'est libéré, en fait, et s'est mis à glisser, et une fracture s'est propagée, donc sur 500 km de long. Et donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est la vitesse de propagation, c'est 3 km par seconde. Donc, 500 km de long, c'est environ 3 minutes et demie de propagation. Donc, pendant 3 minutes et demie, cette fracture s'est propagée. Et le long de cette propagation, le Japon et le Pacifique ont glissé d'environ 20 mètres l'un sur l'autre.
C'est énorme, 20 mètres.
20 mètres, c'est énorme. 20 mètres, oui, ça nous envoie de l'autre côté de la Seine, presque, j'exagère. Mais donc oui, c'est quelque chose de vraiment phénoménal. Et donc, tout le long de cette propagation, il y a des ondes qui sont émises. Et évidemment, la première chose qu'on s'est posée comme question, c'est est-ce qu'il y avait des signaux précurseurs ? Et quand on regarde, il y a un certain nombre de signaux précurseurs. C'est toujours facile, plus facile en tout cas, de voir des signaux précurseurs a posteriori. on a un certain nombre de ces signaux précurseurs, dès qu'ils sont très clairs, à partir au moins du début janvier, donc 3 mois avant, il y a eu une activité sismique anomalique. Il y a des observations qui sont très étonnantes avec la mise en phase de ces anomalies sismologiques, de microsismicité avec les marées terrestres. Il y a des anomalies qui sont très
mises en phase, c'est-à-dire que
petit à petit, la microsismicité s'est mise en phase avec les cycles lunaires, tout simplement pour le dire très simplement.
Mise en phase, c'est-à-dire a eu lieu en même temps, le même rythme.
Quand la Lune passait au-dessus de Tohoku, il y avait un peu plus de microsismicité. Quand la Lune s'éloignait, il y en avait un peu moins.
Est-ce que ça a fait des bons violons?
Oui,
on verra.
C'est une bonne question. Enfin, là, ça, en tout cas, ça a fait une très grosse catastrophe.
Ouais.
Et puis, donc, il y a aussi des anomalies géodésiques profondes qui sont aussi assez controversées. Il y a des anomalies, et pourtant, la chose là, vraiment assez extraordinaire, c'est que quand on regarde le séisme de Tohoku, si on regarde les 3 premières secondes du séisme, donc le son qu'il émet, les ondes sismiques, il n'y a pas, dans ces 3 premières secondes, quelque chose qui nous dise que ça va devenir un grand tremblement de terre. Les 3 premières secondes, c'est un tremblement de terre de magnitude 5. Et puis les 10 premières secondes, c'est un tremblement de terre de magnitude 6. Et les 20 premières secondes, c'est un tremblement de terre de magnitude 7. Et en fait, il n'y a qu'au bout de 20 secondes que tout d'un coup, on se rend compte que ça va devenir quelque chose d'énorme. Et donc, il y a à la fois une activité précurseur et cette incapacité vraiment de détection, même à très très court terme. Et 20 secondes, ça paraît rien, mais pour la prévention, c'est énorme. Et donc, depuis, nos collègues japonais ont recouvert, puisque 20 secondes, il faut 20 secondes aussi pour que les ondes arrivent à terre. Et donc, on est en train de parler de 40 secondes avant de pouvoir donner la première alerte.
Est-ce que vous avez essayé de mettre l'intelligence artificielle sur le coup?
Oui, non.
Christelle Chanard.
L'intelligence artificielle, ça peut nous aider à détecter des choses, mais il faut déjà bien comprendre ce qu'on cherche, donc c'est un point qui est encore critique, je pense. Par contre, il y a une autre observation qui est venue, ce que Alexandre disait juste à l'instant, qui m'est venue, c'est une observation des variations du champ de gravité qui a été importante pour Tohoku et qui nous a permis d'observer pour la première fois quelque chose qu'on prédisait théoriquement, mais qu'on n'avait pas encore observé. Et donc ça, c'est... Alexandre parlait des ondes sismiques, donc quand on a une rupture sismique, on a des ondes sismiques qui sont générées, et puis assez loin du tremblement de terre, il va falloir attendre qu'elles arrivent pour les détecter et donc prévenir, sonner l'alerte. Et ces ondes sismiques, elles se propagent à des vitesses de l'ordre du kilomètre, de quelques kilomètres par seconde, et donc il y a une autre observation qui peut nous servir à essayer de faire de l'alerte plus rapide. Et ça, c'est lié au fait que quand on a un tremblement de terre, en fait, on a des redistributions des masses très vite, puisque la Terre bouge, donc tout bouge, et donc ça va perturber le champ de gravité. Et donc, pour la première fois, à Tohoku, pour le séisme de Tohoku, il y a eu une observation intéressante qui est qu'un gravimètre supraconducteur, qui était en fait à 500 km à peu près de l'épicentre, a vu pour la première fois cette onde qui, en fait, cette onde de gravité qui, en fait, est quasi instantanée. Donc là, on gagne vraiment plein de secondes si on arrive à faire la détection avec ça. Le problème, c'est que ces gravimètres, ils sont déjà très chers, très peu sensibles encore pour ça. Donc on arrive à détecter les très gros tremblements de terre, mais on peut imaginer dans le futur qu'on aura des instruments qui nous permettront de faire de la détection quasi instantanée à distance du déclenchement d'un tremblement de terre.
Juste pour préciser rapidement, un gravimètre, c'est quelque chose qui mesure la façon dont la Terre attire les choses à la surface, à un certain endroit.
Oui, alors il y a toutes sortes de gravimètres, mais le plus simple, on va dire, le plus classique, c'est une masse au bout d'un ressort. Et donc on va regarder la force d'attraction de cette masse.
On change le poids de la masse, en fait.
Exactement.
Cette gravitation change. Eh bien, vu que nous parlons de tremblement de terre et qu'on dit ça « earthquake » en anglais, on va écouter « Earth » avec un F, « Earthquake » de Tyler, the Creator. Heartbreak.
Body rock, don't give a fuck about none. Ain't like fuck my lord, then might call my lord. Love gon' set me up, bitch gon' set me up. Don't retaliate, yo. He ride like the car, and she weak, yo. Like Wolf Vicky, yo. Oh my god, I'm damn not Timmy, yo.
Vous écoutez Big Bang, nous sommes en direct avec le public de la Maison de la Radio et nous parlons de déformation du monde avec le sismologue Alexandre Choubnel, la géophysicienne Christelle Chanard et l'architecte Patrick Bouchain. Il est temps pour les questions du public.
France Inter. Christophe Galfard. Big Bang.
Nous avons une première question de Grégoire.
Oui, bonjour. Est-ce que c'est uniquement grâce aux ondes sismiques que l'on peut connaître la composition interne de la planète ? Ou est-ce qu'il existe d'autres procédés ?
Christelle Chanard.
Alors, il existe plein d'autres procédés, et notamment la géodésie, encore une fois, nous aide pas mal à comprendre la composition de la Terre. Si je reprends l'exemple du tremblement de Terre, ben, en fait, la géodésie, elle permet, contrairement aux ondes sismiques qui vont vraiment nous informer sur ce qui se passe à très courte échelle de temps, donc c'est ce qu'on va appeler plutôt des propriétés élastiques de la Terre, à très courte échelle de temps, la Terre va répondre de façon instantanée, eh bien... la géodésie nous permet d'observer les choses sur un temps beaucoup plus long et de voir comment, en fait, la composition des matériaux et leurs caractéristiques, leurs propriétés, comment ils vont se déformer, va évoluer dans le temps. Notamment, on peut regarder ce qui se passe après les tremblements de terre. On observe une relaxation du manteau terrestre après les tremblements de terre. Donc, on a mis sous contrainte le manteau terrestre et du coup, la déformation va continuer dans le temps. Donc ça nous indique des choses sur la composition interne de la Terre. Pareil, si on regarde cette fois-ci, je reprends l'exemple des masses de glace, mais on regarde sur le temps très très long. Par exemple, on voit aujourd'hui toujours la déformation du sol sous les calottes passées, donc les calottes qui ont fondu depuis 10 000 ans, depuis le dernier maximum glaciaire. Eh bien, on voit la Terre se soulever toujours aujourd'hui avec des vitesses de l'ordre du centimètre par an à certains endroits. Eh bien, ça nous indique que les propriétés des matériaux en profondeur, en fait, sont plutôt viscoélastiques. Elles ont une réponse qui dure dans le temps et on observe toujours aujourd'hui la réponse de la Terre solide à la fonte des grandes périodes glaciaires.
Nous avons une question de Célia.
Bonjour. Est-ce qu'un tremblement de terre pourrait être utilisé comme une énergie renouvelable ?
Alexandre Choubnel.
Alors, c'est en fait utiliser l'énergie des tremblements de terre, ce serait assez difficile parce que il faudrait être capable d'aller la récupérer. Mais il y a quand même une énergie renouvelable qui pourrait faire intervenir la sismologie, et c'est la géothermie. En fait, dans les grands projets de géothermie profonde, où on envoie de l'eau en profondeur pour la faire s'écouler à travers un réseau rocheux pour qu'elle chauffe et pour que de l'autre côté on récupère de l'eau chaude. En fait, on a de l'eau qui se propage dans la croûte terrestre, et cette eau, généralement, elle peut générer des séismes, donc c'est une sismicité qu'on dit anthropogénique, donc générée par l'homme, et dans un premier temps, elle est on la crée volontairement parce que ça nous permet d'augmenter la perméabilité des roches et donc d'augmenter les échanges thermiques. Alors évidemment, c'est un sujet sociétal assez controversé puisque vous savez que en Alsace, par exemple, il y a eu de la sismicité aux alentours de Strasbourg de magnitude 3 et qui a beaucoup inquiété la population, et ce qui fait que les projets géothermiques en Alsace sont pour le moment un peu mis en pause. En Suisse, il y a eu un gros tremblement de terre de magnitude 5 à la fin des années 2000 à côté de Bâle, et là les projets géothermiques ont été mis en pause. Il n'empêche que dans un certain nombre de zones, au moins en domaine volcanique, on pourrait imaginer en fait que la géothermie ait une contribution vraiment importante, et donc la sismologie aussi.
C'est ce que font les collègues islandais, par exemple. La géothermie est très présente en Islande.
Ou aux Açores.
Ou aux Açores.
Pour chauffer dans les zones un petit peu où les roches sont très chaudes, pas trop loin de la surface. Nous avons une question de Yann.
Vous avez évoqué les avantages de la construction souple. À partir de quand l'homme s'est-il détourné ses avantages et passé à de la construction en dur? Et pour quelles raisons principales?
C'est une question pour Patrick Bouchain.
Oui, je m'en doute. Donc, d'abord, vous le savez, on est passé quand même du nomadisme au sédentaire. Donc, transporter son architecture ou sa maison en dur, très difficile. Et donc, quand on était nomade, on portait, ou éventuellement, on occupait des sites naturels qui pouvaient abriter. Et après, donc, étant sédentaire, on a construit. Mais après, si vous voulez, il y a un autre facteur. C'est le facteur, en fin de compte, d'aller au-delà de ses besoins. C'est-à-dire, c'est pas une société de subsistance qui est arrivée, mais lentement, c'est une société d'accumulation, de suraccumulation, et éventuellement donc de montrer qu'on est plus fort, plus riche et qu'on dure plus longtemps. Donc le dur, en effet, c'était apparenté aux riches. Le dur, c'était apparenté aux lieux de culte et autres. Et donc je crois qu'on devra revenir à peut-être abandonner cela, à revenir à plus souple, mais au même titre que pour l'eau chaude, je pense qu'en effet, sur le plan sociétal, ça serait mieux de se chauffer moins plutôt que de chauffer plus et aller chercher dans la terre la température, peut-être de se laver à l'eau froide, puisque certains font des cures, éventuellement pour avoir une belle peau, et ils payent très cher pour se plonger dans l'eau froide. Je pense que c'est plutôt de réapprendre à vivre et qui permettrait de moins abîmer la terre.
Eh bien, vu que vous aviez la parole, cher Patrick Bouchain, je vais vous faire écouter maintenant un petit son mystère, un petit son qui a été enregistré, qui va arriver dans quelques instants. Je suis absolument certain qu'Alexandre Choubnel et Christelle Chanard savent de quoi il s'agit, mais vous peut-être pas. Alors je vais vous laisser tout seul essayer de deviner de quoi il s'agit. Voici le son. Est-ce que ça vous inspire quelque chose?
Oui, enfin, de toute façon, voilà, ça ne peut pas être identifiable exactement, mais ça ressemble à ces grondements de la Terre. Et donc, quand moi j'étais enfant, voilà, j'adorais les orages. Et quand on entend l'orage arriver ou l'orage partir, ou la différence entre la vitesse de la lumière, Alexandre disait tout à l'heure, et la vitesse du son, il n'y a rien de mieux pour apprendre les différentes vitesses en regardant un orage.
Donc vous pensez à quelque chose d'atmosphérique? Eh bien, on va vérifier de quoi il s'agit.
Chaudière. Moi, je pourrais vous dire c'est le bruit d'une chaudière qui va exploser. Mais si j'avais dit ça à une émission scientifique, ça ne marchait pas.
Ou le ventre des auditeurs et auditrices de France Inter avant d'aller déjeuner à midi. Nous allons avoir une explication par le directeur de l'équipe de sismologie de l'Institut de physique du globe à Paris, Nobuaki Fuji.
Donc les sons que nous venons d'entendre, c'est des données sismiques réelles enregistrées lors du séisme de Tohoku le 11 mars 2011. Est-ce que les quatre sons sont différents? La réponse, c'est non. C'est en fait les quatre sons viennent des mêmes enregistrements sismiques sur les 8 sismomètres lors du séisme de Tohoku. Sauf que c'est le filtrage de fréquences diffère. C'est ça ce qui nous permet de concentrer sur le phénomène qui s'appelle la propagation des ondes de surface et après les ondes de volume. Les ondes de surface, c'est les ondes qui sont coincées dans la croûte et le manteau supérieur qui ont des amplitudes plus grandes que les autres. Donc, c'est quoi les autres? Les autres, c'est les ondes de volume. qui propagent principalement à l'intérieur de la Terre. Donc nous, les sismologues, on utilise ces ondes de volume pour imager, faire la cartographie de la Terre interne. Ce genre de sismomètre existe partout sur notre planète, enfin, plus de quelques dizaines de mille stations permanentes. Et donc, ça nous permet de surveiller les activités sismiques, volcanologiques, ainsi que pour imager notre planète interne.
Le séisme de Tohoku, aussi dévastateur qu'il a été, a laissé du coup des marques à la surface de la Terre. On voit, ce que vous disiez tout à l'heure, Alexandre Choubnel, que les îles se sont réellement déplacées de 10 mètres, donc il faut changer les cartes, en gros, parce que c'est plus les mêmes qu'avant. Et même par rapport au niveau des océans, j'imagine qu'il y a quelque chose qui peut avoir changé. Mais là, du coup, j'ai une question, et je crois que la réponse va m'amuser beaucoup. Elle est pour vous, Christelle Chana. Lorsque des tremblements de terre ont lieu, lorsque la gravitation de la Terre change un petit peu, forcément, quelque part, le centre de la Terre va bouger. Et du coup, pour mesurer la hauteur des océans, comment est-ce qu'on fait ?
Alors oui, c'est un concept, pardon, c'est un concept assez difficile à imaginer.
Je comprends que vous toussiez parce que c'est assez émouvant ce que vous allez me raconter.
Voilà. Je fais partie d'une équipe de recherche qui est chargée par la communauté internationale scientifique de définir ce qu'on appelle le repère international de référence terrestre. Et donc ce repère, il a un centre. Et donc il faut qu'on définisse où est le centre de la Terre. Et le centre de la Terre, ça peut être le centre des masses du système Terre, c'est-à-dire les masses de la Terre solide, mais aussi les enveloppes fluides. Donc on voit bien que dès qu'il y a des choses qui vont bouger à la surface ou à l'intérieur de la Terre, ça va faire bouger le centre de la Terre. Mais avant de vous dire de combien ça bouge et pourquoi ça bouge, peut-être à quoi ça sert ? Parce qu'on peut quand même se poser la question. Donc en fait, quand on est sur Terre et qu'on veut se positionner, se localiser ou mesurer quelque chose précisément, et surtout quand on veut comparer deux mesures, soit dans l'espace, soit dans le temps, pour ça, il faut un repère de référence, il faut une référence fiable. Le problème, c'est que on aimerait bien que ce référentiel soit complètement immobile, mais sur Terre, si on le fait à l'échelle de la planète, rien n'est immobile. Et donc, il nous faut un repère dont on connaît le mouvement dans le temps, et du coup, il faut qu'on arrive plus ou moins à prédire le mouvement du centre de la Terre. Et pour ça, on se casse un petit peu la tête et on arrive à trouver que ce mouvement du centre des masses de la Terre, en fait, il bouge de quelques millimètres par an sous l'effet, par exemple, de la fonte des glaces des pôles en été qui va redistribuer les masses d'eau dans l'océan et donc faire bouger le centre des masses de la Terre de quelques millimètres. Il a aussi une dérive à long terme qui est de l'ordre de la fraction du millimètre. Alors vous pouvez vous dire, mais à quoi ça sert et pourquoi on paye la recherche publique à chercher des millimètres si on veut juste se déplacer d'un point A à un point B avec son GPS ? En fait, il y a plein d'applications pour lesquelles c'est essentiel d'avoir cette précision. Donc par exemple, le niveau des mers. Comment on mesure le niveau des mers ? On a des satellites d'altimétrie et donc qui vont envoyer des ondes qui vont se réfléchir sur la surface des océans et qui vont repartir. Et avec le temps de trajet, on va pouvoir mesurer l'évolution du niveau des mers dans le temps. Et l'évolution du niveau des mers dans le temps, c'est quelques millimètres par an, 3 millimètres par an. Donc on voit bien que si on veut mesurer précisément les effets du changement climatique, il nous faut une référence stable dans le temps. Et donc il faut bien savoir où est le centre de la Terre.
Et je suis bien fier d'avoir eu dans l'émission la personne qui définit le centre du monde. Et qui
pas toute seule. Pas toute seule.
C'est franchement quelque chose qu'on n'a pas tous les jours. Mais c'est déjà la fin de Big Bang. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Merci à vous Patrick Bouchain, merci à vous Christelle Chanard. Centre du monde, votre livre « Comment les scientifiques savent » est aux éditions du CNRS. Merci Alexandre Choubnel, vous êtes l'auteur de « La Terre à l'œil nu » aux éditions du CNRS et des paysages cosmique aux éditions Barral.
Sismique.
J'ai dit quoi ? Cosmique ? Cosmique. Oui, de formation professionnelle, pardon. Paysage sismique. Merci aussi au public du studio 621. Cette émission a été réalisée par Benjamin Riquet, à la technique Jérôme Ragano, à la vidéo Julien Dumont, à la programmation musicale Jean-Baptiste Dibert et à la préparation et à la programmation Élodie Royer, relayée par Laura Dumas. Samedi prochain, je vous donne rendez-vous pour une émission sur les plantes endémiques et les mauvaises herbes. Sont-elles vraiment mauvaises ? Et comme c'est long, une semaine, vous pouvez en attendant retrouver toutes les émissions Big Bang en podcast sur l'appli Radio France et les plateformes de streaming.